l'homme, le Purusha. Dieu ne peut cesser de se pencher vers la nature, ni l'homme d'aspirer à la divinité. C'est la relation éternelle du fini à l'infini. Quand ils semblent se détourner l'un de l'autre, c'est pour s'élancer vers une plus intime rencontre. Dans l'homme, la nature du monde redevient consciente de soi afin de faire le plus grand saut vers son possesseur. C'est ce possesseur que, sans le savoir, elle possède, que la vie et la sensation nient, tout en le possédant, et cherche, tout en le niant, si la nature du monde ne connaît pas Dieu, c'est qu'elle ne se connaît pas elle-même. Quand elle se connaîtra elle-même, elle connaîtra une joie d'être sans mélange. Posséder dans l'unité et non se perdre dans l'unité, tel est le secret. Dieu et l'homme, le monde et l'au-delà deviennent un quand ils se connaissent l'un l'autre. Leur division est la cause de l'ignorance, de même que l'ignorance est la cause de la souffrance. D'après ce qu'il dit ici, la réalité de l'univers est ce que l'on appelle Dieu, ou divinité, mais c'est essentiellement joie. L'univers est créé dans la joie, et pour la joie, mais cette joie ne peut exister que dans l'unité parfaite de la création avec son Créateur. Et il décrit cette unité comme le possesseur, c'est-à-dire le Créateur, le possesseur étant possédé, une sorte de possession réciproque qui est l'essence même de l'unité et qui est la source de toute joie. Et c'est à cause de la division, parce que le possesseur ne possède plus, et que le possédé ne possède plus non plus, ne possède plus le possesseur, que la division est créée et que la joie essentielle est changée en ignorance, et cette ignorance est cause de toute souffrance. Ignorance, pas dans le sens où on l'entend d'ordinaire, parce que c'est ce que Sherbindo appelle la naissance. Cette ignorance-là est une conséquence de l'autre. La vraie ignorance, c'est l'ignorance de l'unité, de l'union, de l'identité. Et c'est celle-là qui est cause de toute souffrance. Dès que la division a commencé et que la création a perdu le contact direct avec le Créateur, la division a pris place et par suite de cette division, l'ignorance a régné et a eu pour résultat toutes les souffrances. Tous ceux qui ont fait l'expérience intérieure on fait cette expérience-là, que de la minute où on rétablit l'union avec l'origine divine, toute souffrance disparaît. Mais il y a eu un mouvement très prolongé dont je vous parlais la semaine dernière, qui consistait à mettre à l'origine de la création non cette joie divine essentielle, mais le désir. Cette joie de créer, de se manifester, de s'exprimer, il y a toute une série de chercheurs et de sages qui ont considéré cette joie non comme une joie, mais comme un désir. Toute la ligne du bouddhisme et de tous ceux qui l'ont suivi est ainsi. Et au lieu de voir la solution dans une unité qui vous redonne la joie essentielle de la manifestation et du devenir, il considère que le but et le moyen en même temps sont le rejet total de tout désir d'être et le retour à l'annihilation. Cette conception est comme un malentendu essentiel. Les méthodes préconisées pour se libérer sont des méthodes de développement qui peuvent être très utiles. Mais cette conception d'un monde essentiellement mauvais parce qu'il est le produit du désir et dont il faut s'échapper à tout prix et le plus vite possible a été la plus grande et la plus sérieuse déformation de toute vie spirituelle dans l'histoire de l'humanité. Elle pouvait être utile peut-être à un moment donné, car tout est utile dans l'histoire du monde, mais cette utilité est passée, elle est périmée, et il est temps que cette conception soit dépassée et que l'on retourne à une vérité plus essentielle et plus haute, qu'on remonte vers la joie d'être, la joie de l'union et de la manifestation du divin. Cette nouvelle orientation, je veux dire nouvelle dans sa réalisation terrestre, qui doit prendre place, doit remplacer toutes les orientations spirituelles précédentes et ouvrir le chemin à la réalisation nouvelle qui sera une réalisation supramentale. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière que seule la joie divine vraie, peut remporter la victoire. Naturellement, il ne faut pas faire de confusion sur ce qu'est cette joie. Et c'est pour ça que dès le début, Shobindo nous a mis en garde en nous disant que quand c'est seulement quand on a dépassé la jouissance, que l'on peut entrer dans la béatitude. La béatitude, c'est justement l'état qui provient de la manifestation de cette joie. Mais elle est tout à fait l'opposé de tout ce que l'homme a l'habitude d'appeler joie et plaisir. Et il faut avoir complètement abandonné l'un pour pouvoir avoir l'autre.
J'ai une question, mais vous n'avez pas lu ça.
Qu'est-ce que c'est?
Vous n'avez pas lu.
Hein?
Vous n'avez pas lu ça.
Oh, c'est ce qui doit venir?
Oui.
C'est dans ce même chapitre?
Oui.
C'est concernant quoi?
Le Dieu et la nature.
Hein?
Le Dieu et la nature.
Et alors, ta question est quoi?
Pourquoi le Dieu et la nature s'enfuient-ils lorsqu'ils s'aperçoivent?
Pourquoi?
Le Dieu et la nature s'enfuient-ils lorsqu'ils s'aperçoivent?
Pour jouer. Il le dit, il joue. C'est pour jouer.
Mais est-ce que la nature sait que c'est un jeu?
Hein?
Dieu sait que c'est un jeu, mais est-ce que la nature sait
que c'est un jeu? Oui. Bien, je pense que la nature le sait aussi, c'est seulement l'homme qui ne sait pas.
Mais où est-ce que la nature se cache?
Hein?
Où est-ce que la nature peut se cacher?
Où elle peut se cacher? Elle se cache dans l'inconscience, maintenant. C'est la plus grande cachette, c'est l'inconscience. D'ailleurs, Dieu aussi se cache dans l'inconscient. Peut-être, quand on sait que c'est un jeu et qu'on le fait en jouant, ça amuse. Mais quand on ne sait pas que c'est un jeu, ça n'amuse pas. Ça, je... N'est-ce pas? C'est seulement quand on est de l'autre côté qu'on peut voir ça, cette façon-là. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'ignorance, eh bien, nécessairement, on souffre de ce qui devrait vous amuser et de vous faire plaisir. Au fond, ça revient à ceci. Quand on fait une chose exprès, en sachant ce que l'on fait, c'est très intéressant et ça peut même être très amusant. Mais quand c'est quelque chose que l'on ne fait pas exprès et que l'on ne comprend pas, quand c'est une chose qui vous est imposée et que l'on subit, ce n'est pas agréable. Alors la solution, c'est toujours donner comme ça, il faut apprendre, il faut savoir, il faut le faire exprès. Mais pour vous dire mon sentiment, je crois qu'il vaudrait mieux changer de jeu. On peut, quand on est dans cet état-là, sourire, comprendre et même s'amuser. Mais quand on perçoit, on est conscient de tous ceux qui, loin de savoir qu'ils jouent, prennent très sérieusement ce jeu et le trouvent plutôt mauvais, eh bien, je ne sais pas, on aimerait mieux que ça change. Ça, c'est une opinion toute personnelle. Je sais bien de la minute où on passe de l'autre côté. Au lieu d'être dessous et de subir, quand on est dessus, et non seulement on observe, mais on fait soi-même, eh bien c'est un renversement si total qu'il est difficile de se souvenir de l'état dans lequel on est quand on a tout le poids de cette inconscience, de cette ignorance sur le dos et qu'on subit les choses sans savoir ni pourquoi, ni comment, ni où l'on va, ni pourquoi c'est. On oublie ça. Et alors, on peut dire c'est un jeu éternel, dans un jardin éternel. Mais pour que ce soit un jeu amusant, il faudrait que tout le monde joue le jeu en connaissant les règles du jeu. Tant qu'on ne connaît pas les règles du jeu, c'est pas agréable. Alors, la solution qu'on vous donne, c'est mais apprenez les règles du jeu. C'est pas à la portée de tout le monde. Moi, j'ai l'impression, très forte impression, qu'il y a un mauvais plaisant qui est venu gâter le jeu et qui en a fait quelque chose de dramatique. Et ce mauvais plaisant est évidemment la cause de la division et de l'ignorance qui est produite par cette division et de la souffrance qui est produite par l'ignorance. Au fond, il est difficile de concevoir que cet état de de division, d'ignorance et de souffrance était prévue à l'origine de la création. C'est... Malgré tout, c'est gênant de penser que ça a pu être prévu. Moi, je me refuse à le croire. J'appelle ça un accident assez formidable. Enfin, n'est-ce pas, il est formidable surtout pour en proportion de la conscience humaine, en proportion de la conscience universelle, ça peut n'être qu'un accident très réparable et qui, après tout, quand il sera réparé, on pourra même s'en souvenir en se disant « ça nous a donné quelque chose que nous n'aurions pas eu sans ça ». Mais il faut attendre que ça soit réparé tout bon. En tout cas, je ne sais pas s'il est des gens pour dire que c'était prévu et voulu, mais moi je vous dis que c'était pas prévu et pas voulu. Et c'est même pour cela que lorsque ça s'est produit, d'une façon tout à fait intempestive, immédiatement, quelque chose de plus a jailli de l'origine, qui probablement ne se serait pas manifesté si cet accident n'avait pas pris place. Si la joie était restée joie et conçue comme joie et que tout se soit passé dans la joie et dans l'union au lieu de se passer dans la division, il n'y aurait jamais eu besoin de... pour la conscience divine de se précipiter dans l'inconscience comme amour. Alors, quand on voit ça de très loin et de très haut, on dit après tout, on y a peut-être gagné quelque chose. Mais il faut le voir de très loin et de très haut pour pouvoir dire ça. Ou plutôt, quand c'est par derrière, quand on a dépassé l'état, quand on est rentré dans l'union et dans la joie, quand la division et l'inconscience et la souffrance ont disparu, alors on peut très sagement dire « Eh oui, on y a gagné une expérience qu'on n'aurait jamais eue autrement ». Mais il faut que l'expérience soit derrière, il ne faut pas qu'on soit en plein dedans. Parce que même pour celui, ça, c'est quelque chose que je sais, même pour celui qui est sorti de cet état, qui vit dans la conscience de l'unité, pour qui l'ignorance est une chose extérieure, n'est plus une chose intime et douloureuse. Même pour celui-là, il est impossible de regarder avec un sourire indifférent la souffrance de tous ceux qui n'en sont pas sortis. Ça me paraît impossible. Par conséquent, il faudrait vraiment que les choses changent dans le monde et que la condition aiguë de la maladie disparaisse pour qu'on puisse dire ah oui, on y a gagné. C'est vrai qu'on y a gagné quelque chose, mais c'est un gain très coûteux. C'est pour ça, je crois, c'est à cause de ça que tant d'initiés, de sages ont été attirés par la solution du néant, du nirvana, parce qu'évidemment c'est un moyen très radical d'échapper aux conséquences d'une manifestation ignorante. Seulement, la solution de changer cette manifestation en une réalité vraie, vraiment divine, est une solution très supérieure. Et c'est celle-là que l'on veut essayer maintenant avec une certitude de réussir un jour ou l'autre. Parce que, malgré tout, en dépit de tout, ce qui est vrai est éternellement vrai. Et ce qui est vrai dans les sens doit nécessairement devenir vrai dans la réalisation un jour ou l'autre. Monsieur Obido nous a annoncé que nous avons mis le pas sur le fait le premier pas sur le chemin et que le moment est venu d'aboutir. Par conséquent, il n'y a qu'à se mettre en route. Voilà. Alors, ta question, c'était ça que tu voulais savoir? Au fond, ce que tu voulais demander, c'était pourquoi cette image, non? Oui. On pourrait retourner la chose. Au lieu de faire de ça, au lieu de dire que l'univers est comme ça, c'est-à-dire que le divin et l'homme sont comme ça, ressemblent à ça, on devrait dire que ça, c'est peut-être une expression extérieure superficielle de ce qu'est la relation essentielle à l'heure actuelle entre le divin et l'homme. Au fond, ça reviendrait à dire que quand on joue, on est beaucoup plus divin que quand on est sérieux. Mais ça, ce n'est pas toujours bon à dire. Peut-être qu'il y a plus de divinité dans le jeu spontané des enfants que dans l'érudition du savant et l'ascétisme du saint. Ça, je l'ai toujours pensé. Seulement, c'est une divinité très inconsciente d'elle-même. Pour ma part, je dois vous confesser que je me sens beaucoup plus moi-même essentiellement quand je suis joyeuse et que je joue à ma manière, que lorsque je suis très grave et très sérieuse, beaucoup plus. Grave et sérieuse, ça me donne toujours l'impression que je suis en train de tirer le poids de toute cette création si lourde et si obscure. Tandis que quand j'y joue, que je joue, que je peux rire, que je peux m'amuser, ça me fait l'effet comme d'une poudre de joie qui tomberait d'en haut et qui donnerait une coloration très spéciale à cette création, à ce monde, et nous rendrait beaucoup plus proche de ce qu'il doit être essentiellement.
Mais pourquoi et quand est-ce que tu es grave?
Hein?
Pourquoi et quand est-ce que tu es grave?
Oh ben vous m'avez vu quelquefois. Donc... Peut-être quand je descend d'un échelon, je ne sais pas pourquoi. Quand il y a quelqu'un qui se noie ou qui est en difficulté, alors il faut descendre de la berge dans l'eau pour le tirer. C'est peut-être pour ça qu'on la création est dans une difficulté spéciale. On descend un peu, on tire, alors on devient sérieux. Mais quand tout va bien, on peut rire et s'amuser. Thank you. au fond, on pourrait dire que toutes les prédications, tous les exhortements, même toutes les prières et toutes les invocations viennent de ce que Shobindo appelle l'hémisphère inférieur. C'est-à-dire qu'on est encore dessous. Ça peut être le sommet, ça peut être la frontière, ça peut être le, n'est-ce pas, juste le bord de cet hémisphère inférieur, mais on est encore dans l'hémisphère inférieur. Et dès qu'on passe de l'autre côté, tout ça, ça vous paraît pour le moins inutile et presque enfantin dans le mauvais sens du mot. Ignorant, encore ignorant. Et C'est une chose très intéressante d'être encore dans cet état où on est tantôt d'un côté, tantôt juste à la frontière de l'autre. Eh bien, cette frontière de l'autre qui pour la conscience humaine est un sommet presque inaccessible, pour celui qui peut consciemment et librement vivre dans l'hémisphère supérieur, eh bien, c'est malgré tout, c'est une descente. Je voudrais, plus tard, que nous prenions pour lire ici ces derniers chapitres de la vie divine. Je crois que vous devenez assez grand, assez mûr pour pouvoir suivre ça. Et alors, il y a toutes sortes de choses que vous pourrez comprendre et des sujets que nous pourrons aborder basés sur ces textes-là qui nous ferons avancer d'un pas, un pas sérieux, vers la réalisation. Il décrit d'une façon tellement précise et tellement merveilleuse la différence entre ces deux états de conscience. Comment tout ce qui paraît à l'homme un maximum presque de perfection, en tout cas de réalisation, comme tout cela appartient encore à l'hémisphère inférieur, y compris toutes les relations avec les divinités telles que les hommes les ont connues et les connaissent encore. Comme toutes ces choses sont encore en dessous. Et quel est le vrai état celui qu'il décrit comme l'état supramental, quand on passe au-dessus. Et au fond, tant qu'on n'est pas passé au-dessus, consciemment, il y a tout un monde de choses que l'on ne peut pas comprendre. Alors, je voudrais là que nous puissions ouvrir le chemin, passer au-delà. Tous ensemble un peu. Voilà. Peut-être commencerons-nous cette année. Quand nous aurons fini cela. Voilà.